Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire. C'est la première de 2025. Après un petit arrêt de quelques semaines, nous voilà de nouveau dans le monde de la bande dessinée. Je suis aujourd'hui avec David Ratt pour parler un album stupéfiant de beauté et d'intelligence. Vous avez l'habitude de mon enthousiasme, donc je ne vais pas m'arrêter. Mais une petite merveille, À la poursuite de Jack Gillett, c'est publié par les éditions Grand Angle. Donc David, bonjour.
Bonjour.
Première question, tu passes dans toutes les bulles d'histoire, je pose toujours la même question, c'est qui es-tu donc ?
Eh bien, je m'appelle David Ratt, en effet, je suis auteur BD depuis maintenant une petite vingtaine d'années, puisque mon premier album est sorti en 2006. J'ai travaillé avec différents éditeurs, essentiellement les éditions Paquet, un petit peu avec les éditions Soleil, et puis depuis 5-6 ans, je travaille essentiellement avec les éditions Grand Angle chez Bandeau.
Donc on va parler d'un album qui s'appelle « À la poursuite de Jack Gillett ». Je le prononce un peu à l'américaine parce que c'est une qui se passe aux États-Unis. Est-ce que pour commencer, tu peux nous faire un petit peu le pitch de cette histoire, nous raconter comment tu rentres dans l'histoire et comment tu nous embarques ?
Eh bien, Jack Gillett, en fait, c'est un personnage qui parcourt les États-Unis. Alors, l'histoire se déroule au tout début du XXe siècle, dans les années 1910 et suivantes, aux États-Unis, donc à une période assez intéressante des États-Unis parce qu'on a le monde moderne qui côtoie encore le Far West. Et Jack Gillett, c'est un personnage qui est un bourreau itinérant, qui est basé à Cincinnati, dans l'Ohio, et qui a cette particularité d'être spécialisé dans l'exécution d'animaux qui sont jugés par des tribunaux dans divers endroits, dans des petits bleds. Et lui est envoyé il est engagé, puisque c'est un bourreau assermenté, donc pour exécuter ces animaux selon les méthodes qui sont recommandées par l'État fédéral. Et donc, c'est les aventures de cet homme-là.
Il pend les animaux, parce que la loi dit que quand on exécute, on pend.
Exactement. C'est la méthode recommandée aux États-Unis à cette époque-là, en tout cas.
Et qui est recommandée, entre guillemets, évidemment, pour les humains et donc forcément pour les animaux.
Exactement.
Quelle est la part de fiction et de réalité que tu as injectée dans cette histoire ?
Alors, la part, évidemment, tout ce qui concerne les procès d'animaux est tout à fait réel. Hein, ça se passait réellement. Alors, pas seulement aux États-Unis, parce que c'est quelque chose qui remonte déjà au Moyen-Âge en ce qui concerne l'Europe, la France, la Suisse, différents endroits d'Europe. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regroupé un certain nombre d'histoires qu'on retrouve quand on fait des recherches historiques sur les procès d'animaux. Je les ai regroupées aux États-Unis. Je fais référence à d'autres, à certains cas qui se sont déroulés plutôt en France, mais là, voilà, je mets tout aux États-Unis. Et surtout, j'ai inventé un petit peu le métier de bourreau itinérant pour animaux. Alors, on sait que les bourreaux pour humains, eux, en effet, existaient. Et ils étaient, c'était un métier, qui était connu, reconnu, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais en ce qui concerne les animaux, on peut supposer qu'à l'époque, c'était plutôt les autorités locales qui se chargeaient d'exécuter des animaux. On s'imagine que c'était plutôt le shérif du coin qui s'en chargeait. C'est là que j'apporte une fiction à la mesure où je crée ce personnage-là qui va représenter tous les bourreaux d'animaux qui a pu exister aux États-Unis à cette époque-là.
Alors, même si le sujet est un peu grave, on va dire, la peine de mort, que ce soit pour les animaux, pour les humains, c'est un sujet grave. C'est quand même une histoire qui a une charge comique assez importante tout au long du déroulement de l'histoire, même si on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce qu'il y a 1000 péripéties, certaines sont drôles, certaines sont plus dramatiques, plus dangereuses, mais c'est quasiment tout le temps drôle, on a toujours le sourire aux lèvres quand on tourne les pages.
Bah, tant mieux. Alors, c'était une volonté à la fois de peut-être de quelque part de dédramatiser un tout petit peu le sujet, parce que c'est un sujet qui est lourd, évidemment. Et j'avais pas envie de faire un album qui soit que dramatique, même si le fond est dramatique, évidemment. Mais c'est surtout parce que les procès d'animaux, c'est quelque chose où on frise le ridicule la plupart du temps. Et donc, je voulais mettre ça en évidence à travers un peu d'humour, en tout cas, de second degré dans cette histoire.
Mais parce que tu joues sans arrêt dans une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a une phrase, je crois que c'est au début, c'est que les animaux doivent être jugés comme les hommes, entre guillemets, pour servir à la fois d'exemple aux animaux et d'exemple aux hommes. C'est-à-dire que quand on tue un cochon parce qu'il a, je crois, mangé un bébé, on le déguise en femme pour faire exemple aux femmes, mais on juge un cochon pour dire au cochon « Faites gaffe, si vous remangez des bébés, ça va vous arriver aussi ». Il y a sans arrêt ce jeu entre une espèce de réalité dramatique et une fantasmagorie un peu ridicule.
Et en plus, c'est un cas vraiment tout à fait réel, hein, l'histoire de ce cochon. Ça s'est passé en France, mais en effet, on a exécuté cette truie, on l'a déguisée en femme pour que ça serve à la fois d'exemple aux truies qui étaient, on les a obligés à assister à l'exécution, et aux femmes aussi de la communauté qui devaient veiller un peu plus sur leurs enfants, visiblement.
L'autre chose qui est drôle, c'est que dans le livre, le bourreau est amené à tuer tout un tas d'animaux. Donc là aussi, ça rajoute au côté dramatique. Là, je vois, il y a un cerf, il y a un cheval, il y a un espèce de furet, il y a un dindon, un chat, mais il y a aussi une chèvre, une vache. Enfin, il y a tout un bestiaire. On se demande bien quel est le crime du furet, par exemple.
Alors, bonne question. Là, je laisse à l'imagination du lecteur. Mais dans l'histoire, on a condamné toutes sortes d'animaux, y compris des insectes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des procès sur des hannetons, il y a eu des procès sur des chenilles, il y a eu des procès sur des termites, qui d'ailleurs ont gagné leur procès, en l'occurrence, dans un cas en particulier qui s'est déroulé au Brésil dans les années 1500. Mais oui, on condamnait et on jugeait un peu tout ce qui du petit au plus grand. Tout ce qui bougeait était susceptible d'être jugé à un moment donné ou à un autre.
Donc, au cours de ces pérégrinations, et ce bourreau se déplace en Ford, une voiture assez moderne pour l'époque, hein, même si de temps en temps, elle a des ratés techniques. Mais en tout cas, il est dans la modernité. À la fois, lui, il vit avec des machines modernes et il vit dans un monde qui est un peu moyenâgeux, on va dire ça comme ça. Mais les personnages les plus importants, donc c'est le bourreau, il y a une jeune femme dont on va parler, et il y a un jeune garçon, là aussi, qu'il faut évoquer. Je trouve que tu as réussi à vraiment très bien les écrire, à très bien les personnaliser, finalement en très peu de mots.
Ben, j'ai essayé, en tout cas, en effet, et c'est vrai qu'il y a... Alors, j'avais utilisé un terme, il y a un bestiaire de personnages, mais en fait, oui, parce que dans cette histoire, les humains se comportent un peu comme des animaux, et les animaux sont peut-être ceux qui ont plus d'humanité, finalement. En tout cas, on essaye de décrire les personnages, en tout cas, de faire comprendre leur psychologie assez rapidement, que ce soit par le texte, mais aussi par l'image, bien sûr.
Mais alors, le bourreau, quelle est la... C'est un personnage rigolo, c'est un personnage très touchant, c'est un personnage attachant, c'est un personnage qu'on a vraiment envie d'aimer malgré son métier. Comment tu peux le décrire? Comment tu peux raconter un peu sa vie?
C'est un type, j'ai envie de dire, c'est un pauvre type quelque part. C'est un gars qui a pas énormément de personnalité, qui est plutôt effacé, assez timide en réalité, et puis qui a hérité tout simplement de cette entreprise de bourreau par son père. Son père était bourreau, mais bourreau pour humain. Et il fait pas ce métier par passion, hein, ni par conviction du tout. C'est pas voilà, parce que si son père avait été boulanger, il aurait été boulanger. Il se trouve que son père était bourreau, donc il est devenu bourreau. Il a sur le dos sa vieille mère qui est pas particulièrement tendre avec lui non plus. Et comme il n'a pas réussi, il n'a pas le caractère pour tuer des humains, bah, il s'est reconverti dans cette voie-là sur les animaux, en se disant bah, peut-être que ça, il pourrait le gérer plus facilement tout en maintenant l'entreprise familiale. Mais c'est un type qui n'est pas heureux, qui est malheureux, et puis qui assez rapidement va démontrer un peu toutes ses failles et son manque de conviction par rapport à son métier.
Je trouve que le moment qui le caractérise le mieux, c'est quand il rentre dans le saloon et qu'il demande une limonade, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui. Et il est moqué par tout le monde, en réalité, hein, parce que voilà, c'est un pied tendre, finalement, par rapport aux autres. Et oui, c'est un gars qui boit même pas d'alcool.
Oui, et même quand il va faire ses exécutions d'animaux, On voit bien, il ne sait pas trop sur quel pied danser par moment parce qu'il se rend compte que son travail est inutile. C'est comme ça que je l'ai vu, hein, et qu'il se retrouve même menacé par d'autres qui lui disent va-t'en, dépêche-toi de partir, sinon le goudron et les plumes vont te rattraper, quoi.
Oui, il n'est même pas respecté, en fait. C'est-à-dire que, voilà, autant les bourreaux étaient craints, les bourreaux pour humains étaient craints un peu partout, et lui, il n'est même pas respecté par ses clients. Donc, c'est un type qui est vraiment. Voilà, il n'a pas de vie facile.
Alors, l'autre personnage que j'ai trouvé absolument génial, c'est un petit garçon qui va rencontrer ce bourreau pour animaux. Et lui, ce petit gars, quand on regarde la bande dessinée, on se dit c'est un vrai psychopathe, quoi. C'est un meurtrier en puissance. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir bourreau, mais bourreau pour humains. Et il s'imagine qu'en suivant le bourreau pour animaux, il va apprendre le métier.
Oui, alors je confirme, c'est un psychopathe, totalement. Totalement. Alors, il n'est pas que ça, évidemment. C'est un gamin qui est orphelin. C'est un gars, voilà, il a une histoire. Il a une mauvaise influence qu'il a reçue parce qu'il fréquente un peu des gens du Ku Klux Klan. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est un vrai psychopathe. Et à travers ce personnage-là, quelque part, c'est une façon de mettre l'accent sur une certaine tranche même de l'Amérique d'aujourd'hui. Qui est animé par ce. Alors, je suis pas en train de dire que tous les Américains ou que les Américains font partie du Ku Klux Klan, mais en tout cas, il représente une certaine forme, une certaine Amérique qui a perduré depuis cette époque-là et qui existe toujours aujourd'hui.
Oui, il y a une fascination pour la violence, quoi.
Tout à fait, ouais.
Et là, c'est une violence légale, en plus.
En plus, dans le cas présent, oui. Donc, c'est pour ça que lui, son rêve, c'est en effet de devenir. Et d'ailleurs, il admire les Français qui, à l'époque, eux, ne pendent plus, mais guillotinent, ce qui est une avancée technologique fabuleuse pour lui, qu'il fait beaucoup fantasmer.
Alors, le troisième personnage, moi, je trouve qu'il y en a un quatrième qui est le paysage, mais ça, on parlera de ça à la fin, mais le troisième personnage, c'est une jeune fille. Alors, tu l'as dessinée très jolie, c'est une très jolie jeune femme, que le bourreau va rencontrer dans des conditions très particulières.
Oui, parce qu'en fait, c'est la propriétaire d'une chèvre qu'il va devoir exécuter. Et cette propriétaire, donc, qui s'appelle Winifred, veut manger sa chèvre et donc va poursuivre, d'où le titre, à la poursuite de Jack Gillette. C'est elle qui poursuit Jack Gillette durant tout l'album pour venger la chèvre qu'il a exécutée. En plus, qu'il a exécutée à moitié prix, donc ce qui est le summum de l'humiliation pour elle.
Oui, elle est très attachée à sa chèvre. Et là aussi, ça renverse les perspectives et les rapports. C'est-à-dire qu'elle, elle veut venger sa chèvre. Alors que tous les autres, ça lui est jamais arrivé à Jack Gillette.
Ben non, évidemment, parce que le rapport avec les animaux à cette époque-là est plus, on va dire, il y a plus de distance, on va dire, entre guillemets, entre les propriétaires et leurs animaux. C'était plutôt une question, voilà, pécuniaire, je pense, et de ce que l'animal pouvait rapporter. Mais elle est attachée, voilà, vraiment, effectivement, à cette chèvre. Et comme c'est une fille un peu entière assez spontanée, elle décide de poursuivre Jack Gillette pour venger sa chèvre.
Oui, là aussi, tu joues avec le renversement, c'est-à-dire que celle qui poursuit, c'est plus un cow-boy, c'est pas un chasseur de primes, c'est pas un personnage qui est le poursuivant traditionnel. Là, c'est une jeune femme.
Oui, mais qui a un caractère beaucoup plus trempé que Jack Gillette, en réalité, qui est beaucoup plus forte psychologiquement que lui, qui est beaucoup plus affirmée. Et oui, justement, c'était amusant d'avoir ce renversement peut-être des stéréotypes avec ce personnage de Winifred qui pour moi, est un personnage évidemment central dans l'histoire.
Oui, il se rattrape, ça aussi, je trouvais ça drôle, ils se rattrapent, elle manque de le tuer, ils s'en tirent plus tant bien que mal, et ils vont faire le voyage ensemble, tous les trois, le psychopathe, la jeune fille et le bourreau pour animaux, dans une petite charrette.
Oui, et à nouveau, on se retrouve avec une situation qui est presque ridicule et puis qui est complètement inversée, parce que cette Winifred qui est très en colère, elle n'arrive pas forcément à mettre à exécution son projet, parce que c'est pas si simple de tuer quelqu'un, évidemment. Donc on perçoit que pour elle c'est pas facile. Et finalement le gamin psychopathe devient le protecteur. Et au milieu de ça, on a Jack Gillette qui capte rien à rien, hein, qui se rend même pas compte de la situation, en réalité, ni de la menace qui pèse sur lui.
Oui, c'est ça. Il comprend pas qu'elle veut le tuer.
Non, en effet, au contraire. Au contraire. Alors, je ne vais pas spoiler, voilà, certainement, mais en effet, il ne capte pas. Il ne capte pas, il ne comprend rien.
Alors, dans ta bande dessinée, il y a aussi quelques... Alors, je n'ai pas forcément vu toutes les références, mais bon, des références au cinéma.
Oui.
Il y a évidemment cet Indien couché sur le sol. Moi, j'ai immédiatement pensé à Little Big Man. Exactement. C'est un bon jour pour mourir.
Ouais.
Là aussi, que viennent faire les Indiens dans cette aventure ?
Eh ben, voilà, c'est la période aussi voilà, où les Indiens bah, sont à un moment de leur histoire qui n'est pas rigolote non plus, forcément. Et ils apportent une certaine forme de sagesse. Alors, bien sûr, il y a évidemment la référence à Little Big Man, qui pour moi est un des plus grands films de western de l'histoire. Et le personnage de Poe de la vieille hutte, qui est le grand-père de Dustin Hoffman dans l'histoire. Et qui, en effet, un jour, à la fin du film, décide qu'il doit mourir. C'est un moment très, très drôle et à la fois très philosophique. Et j'ai voulu introduire ce personnage-là, en tout cas un personnage qui lui ressemble dans mon histoire, et qui apporte une vraie sagesse, à un moment donné, à tout le monde.
Oui, à la fin notamment, mais on ne va pas dire pourquoi.
Non.
Autre chose, moi, qui m'a beaucoup plu dans cet album, c'est aussi là aussi, c'est un jeu. Moi, je trouve que c'est un album qui joue beaucoup, et ça fait partie du plaisir de la lecture. Un jeu entre le western et des films un peu plus... qui disent plus la modernité de l'Amérique. On est vraiment entre deux mondes, et là, tu joues très, très bien là-dessus, avec, là, tu me dis si je me trompe, mais un plaisir à dessiner des paysages, parce qu'à chaque fois, on a des belles pages, des grandes doubles pages, on a des grandes cases avec la vallée de la mort, avec les canyons, avec la rivière qui serpente dans les falaises. On est sans arrêt embarqué à la fois du côté du western et à la fois du côté peut-être des Buster Keaton ou des Charlie Chaplin un peu plus urbains, quoi.
Oui, j'avais vraiment très très envie de ça, et en effet c'est aussi un grand grand plaisir graphique pour moi. C'était une envie d'avoir un album où le graphisme ne sert pas que l'histoire, c'est-à-dire que vraiment voilà, on est quelque chose qui transparaisse à travers les dessins, à travers les couleurs. C'est le premier album que je fais en couleur directe, donc c'était quelque chose vraiment de très particulier pour moi. C'est un album important pour moi, en effet, dans le sens où il y avait tout un tas de défis différents, mais surtout au niveau graphique. Et j'avais envie d'espace, j'avais envie d'avoir la place, et c'était d'ailleurs un petit peu le deal avec l'éditeur. De plutôt que de faire un album relativement condensé, vraiment de prendre le temps, de prendre la place, d'avoir quelque chose comme ça d'assez lent dans la narration, ou en tout cas dans les ambiances, poser les situations. Et puis en fait, puis dessiner l'Amérique de cette époque-là, bah, ça demande de la place. On ne peut pas faire ça dans les petites cases, quoi. Il faut que ce soit à la hauteur à la fois du mythe et puis des paysages extraordinaires qu'il y a. Et je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, en effet. Je reconnais.
Ça sent, ça sent vraiment. Et je te dis, ça fait partie vraiment du plaisir de lecture, de passer d'un paysage à l'autre, d'une ambiance à l'autre. Et tu parlais des couleurs, donc c'est un album en couleurs. On peut le révéler, mais c'est pas un album en couleur réaliste, c'est un album en couleur d'ambiance.
Oui, tout à fait. Oui, absolument. Absolument. Bah, déjà, par le fait que j'ai travaillé à l'aquarelle directement sur les planches originales, qu'il y avait quelque chose de c'est-à-dire il y avait des risques, hein, en effet, dans la pratique de l'aquarelle, d'autant plus que, comme je dis, j'avais jamais fait d'aquarelle, si ce n'est pour des petites illustrations, des choses comme ça, mais voilà, c'était pas une expérience formidable. Je me suis dit, quitte à faire un album à l'aquarelle, je vais faire un 120 pages. Voilà, une espèce de défi totalement déraisonnable à ce sujet-là, mais qui a créé une espèce de pression qui, moi, m'a porté pendant toute la réalisation de l'album. Et du coup, je ne me souviens plus de ta question, mais...
Non, mais tu as répondu, c'est bon.
Oui, moi, ça va, alors.
Mais est-ce que tu disais qu'il faut respirer? Effectivement, c'est un album dans lequel on respire. C'est un album qui est relativement peu découpé. Il y a beaucoup de grandes cases. Voilà, et quelquefois, bon, il faut des cases un peu plus resserrées quand on accélère, mais il y a beaucoup de grandes cases. On prend son temps. On est un peu au rythme de la Ford de Jack Gillette. Quoi. On va pas vite. En tout cas, on arrive au bout, quoi.
En effet. Ouais. En plus, comme cette Ford, elle finit par tomber en panne assez rapidement, on va encore moins vite, dans le sens où après, il va se déplacer en chariot, à cheval, etc. Donc, ça va encore moins vite. Et il fallait, puis c'était important, je pense, aussi pour quelque part illustrer la solitude de ce personnage, parce que c'est un personnage qui est très seul, finalement. Ce personnage, ce petit bonhomme au milieu des grands espaces, il y avait quelque chose vraiment à exprimer à ce niveau-là.
Oui, parce qu'il est tout maigre en plus, il est tout filiforme.
Ah oui, c'est une crevette, hein, c'est une crevette, donc ça participe à sa psychologie.
Donc on a presque fini là, le temps passe très très vite quand on est avec Jack Gillett, même s'il avance tout doucement. Juste, on va parler de la couverture, parce que sans révéler ce qui se passe à la fin de l'album, la couverture, je trouve, ajoute à l'envie d'ouvrir cet album, parce qu'on se demande, mais que fait Jack Gillett face à un éléphant ?
Et oui, en effet, il y a la référence à ce procès fameux qui a eu lieu en 1916. D'ailleurs, ça a été le point de départ de ce scénario, c'est l'exécution d'Elephant Mary en 1916 à Unicoi County. Voilà, cette éléphante qui a été pendue pour avoir tué son dresseur, en tout cas un dresseur remplaçant qui la battait. Et c'est une histoire qui a défrayé la chronique à l'époque, qui a été photographiée largement, parce que l'exécution de cet animal a été, dans la réalité, absolument, c'était une barbarie totale. Et ça a été même filmé à l'époque, et ça passait dans les cinémas. Ensuite, ça tournait dans les cinémas, donc c'était ça a vraiment défrayé la chronique et ça m'avait marqué comment on pouvait condamner à mort et exécuter de cette façon-là un animal et donc forcément, on le retrouve dans la couverture.
Voilà, et là aussi, de nouveau, il y a un petit jeu de contraste entre cet éléphant et le bourreau. Donc le bourreau, on raconte pas, mais on lui demande d'exécuter cet éléphant. Ouais. Et c'est le début d'une autre histoire.
Ouais. Et le fait que justement dans la couverture on est le Jack Gillett de dos, parce qu'en général on met jamais le personnage principal de dos, hein, dans une couverture. Mon éditeur m'a expliqué que c'est contre tous les usages, mais en réalité on a l'éléphant qui est de face, et parce que les personnages principaux de l'histoire sont aussi les animaux, donc ils sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants que les humains dans cette histoire.
Ben David, je te remercie beaucoup de ce moment passé avec moi pour parler de Jack Gillett et de ton merveilleux album. Je dis à ceux qui nous écoutent qu'il faut absolument l'ouvrir et le regarder, parce que le dessin est... Bon, je t'envoie des lauriers, hein, mais le dessin est époustouflant, et notamment dans les paysages, mais aussi beaucoup, beaucoup dans les portraits, dans tous la galerie de personnages, de trognes, de pecnots, de shérifs, de juges qui parsèment cette histoire. Voilà, ça fait là aussi partie du plaisir de lecture que de pouvoir lire une bande dessinée avec un dessin de ce niveau.
Eh ben merci beaucoup, Stéphane.
Et donc, pour conclure, comme d'habitude, voilà ce Jack Gillett. La poursuite de Jack Gillett, c'est un album de David Ratz, publié par les éditions Grand Angle. Ça fait 128 pages et c'est au prix de 19,90. Et franchement, à ce prix-là, il n'y a pas de raison de se priver, quoi. Ça serait dommage. Je te dis au revoir et à bientôt.
À bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.